Bonjour, professeur Mbouika à la foulée.
Bonjour.
Professeur, vous n'avez pas de prénom?
Alaa Foulé, c'est mon prénom et il a une signification politique importante parce que ça veut dire Raphaël et je l'ai transformé en Alaa Foulé contre la politique de l'authenticité de M. Mobutu. Et je suis peut-être parmi les rares Congolais, sinon le seul à avoir gardé un prénom officiellement au Congo et c'est resté le symbole de notre lutte contre les dictatures.
Alors, vous faites vos 53 ans à la fin de ce mois de juillet. La presse dit de vous souvent que vous avez des allures de prêtre. Vous avez été au grand séminaire?
Non, je suis un ancien séminariste. J'étais au petit séminaire de Lukelenge. Et je crois que peut-être ça marquait. Vous savez, c'était les années formatives de ma personnalité, en quelque sorte.
Après, vous n'avez plus continué. Vous êtes père de famille aujourd'hui.
Je suis père de famille. Je suis marié. J'ai deux enfants, une fille, un garçon.
Alors parlons brièvement de votre carrière professionnelle et politique. Vous êtes docteur en sciences de l'Université libre de Bruxelles avec une spécialisation en biophysique et biochimie, mais vous avez fait aussi des études aux États-Unis et vous êtes détenteur des diplômes en philosophie, en pédagogie et en psychologie.
Oui, quand j'étais plus jeune, vous savez, c'est quelques domaines, je voulais tout apprendre, je voulais être l'un des derniers esprits universels du monde. Je vous dirais simplement que j'ai eu mon doctorat avec la plus grande distinction. C'est une mention importante
Avec
et les
félicitations du jury.
félicitations du jury.
C'est ce bagage qui vous a permis d'être professeur dans plusieurs universités.
Oui, absolument. J'ai une longue carrière scientifique et académique derrière moi. J'aimerais d'abord ajouter, c'est une mention importante pour ma
Ouais.
carrière scientifique. J'ai fait des travaux excessivement importants dont on a dit aux États-Unis qu'ils pourraient mériter un prix Nobel.
Qui n'a pas encore été décerné.
Non, non, si j'étais resté, j'ai eu à choisir entre la carrière politique pour sortir le Congo de sa situation de dégénérescence actuelle ou rester en science et mériter un prix Nobel.
Sur le plan politique, vous présidez le Rassemblement pour une nouvelle société depuis bientôt 10 ans.
Oui.
C'est ce parti qui vous présente comme candidat à la présidence de la République et au dialogue intercongolais, vous avez représenté l'opposition extérieure.
Oui.
C'est pour le compte de cette composante même que vous avez été député au Parlement de transition.
Oui, et j'ai été le chef de délégation et porte-parole de la délégation de l'opposition extérieure aux négociations politiques intercongolaises. Je suis impliqué dans la vie politique du Congo depuis plus de 35 ans, pratiquement. J'ai opposé l'arrivée de M. Mobutu au pouvoir. J'ai travaillé avec presque tous les mouvements politiques de l'opposition zaïroise et congolaise.
Nous espérons que vous allez répondre avec beaucoup de plaisir à nos auditeurs qui vous posent quelques questions. Narcisse Lopez de Chikapa veut savoir ce que vous ferez de mieux pour les Congolais si vous êtes élu.
Ce que je ferais de mieux, ce serait transformer complètement ce pays, le rendre une société conviviale où les gens peuvent vivre dans la dignité, mener une vie décente et épanouissante. Apprendre aux Congolais à s'organiser, ce que je fais déjà actuellement, et leur donner le leadership qu'il faut, parce que notre vision, qui est celle d'une société de responsabilité citoyenne, ça veut dire une société dans laquelle le citoyen, le Congolais ou la Congolaise est copropriété de son pays et maître de son destin, c'est la meilleure vision qui puisse exister, je dirais, non seulement au Congo, mais dans le monde.
Professeur Mbouika Lalafouile, vous avez parlé d'une vie décente. Il y a la question de Flavien Umbanzungu qui pose depuis Brésil. Comment ferez-vous concrètement pour que chaque Congolais mange au moins 2 fois par jour?
D'abord, ce que je ferais, c'est vraiment transformer l'agriculture dans ce pays. Nous avons un pays excessivement fertile dans son ensemble. On développera la paysannerie, donc l'activité paysanne. Nous développerons aussi des fermes agricoles et nous développerons le secteur de l'agro-industrie. Il doit être possible dans ce pays. Ça se faisait déjà du temps colonial. Sans beaucoup d'investissements et sans une très grande technologie, il doit être possible de permettre aux Congolais de manger d'une manière tout à fait décente.
Alors, dans votre
Le
programme
Congo.
politique, vous avez déjà prévu de créer combien de petites et moyennes entreprises?
Le chiffre importe peu. Ce qui est important, c'est la mobilisation. Nous avons dit ceci, nous allons développer l'économie de ce pays dans un partenariat global entre les pouvoirs publics, le citoyen, les associations socioprofessionnelles. Nous allons aider les Congolais à développer des associations productives. Parce que ce qui se fait aujourd'hui, il y a énormément d'argent, mais il n'y a pas de mécanisme pour aider les Congolais à concentrer, accumuler cet argent pour produire des capacités productives et ensuite permet d'améliorer leur existence. Nous allons le faire avec suffisamment, un peu plus d'intelligence et de rationalité. On va transformer cette société et on va créer beaucoup d'emplois. C'est pas l'État seul qui va le faire. Comme j'ai dit, ça va être dans un partenariat global.
Patti Mangili Odebeni, il vous pose cette question. En cas de réussite, comment allez-vous pacifier l'Ituri?
Nous allons pacifier l'Ituri d'abord en adoptant une démarche multipolaire, donc qui aura plusieurs composantes. D'abord, nous allons essayer de savoir en réalité qu'est-ce qui se passe en Ituri. Il y aura une commission nationale sur l'Ituri parce que nous devons faire un état des lieux. Nous allons associer les citoyens ituriens eux-mêmes qui vivent là-bas, qui connaissent les problèmes. Nous allons avoir une démarche de diplomatie intérieure à l'égard de tous les groupes combattants extérieurs et intérieurs dans notre pays, initier le dialogue. Mais nous allons aussi, au cas où ils n'aimeraient pas, répondre à notre démarche de dialogue, de pacification, d'implication de tout le monde, utiliser aussi la force. Mais nous espérons là que nous aurons une armée intégrée et républicaine.
Mais avec tout cela, en combien de temps vous allez mettre fin à l'activité de milice si vous passez au pouvoir?
Je crois que dans 3-4 ans, on peut y parvenir. Il faut être réaliste. Il y a des problèmes qui sont profonds, il y a des revendications peut-être qui sont profondes, mais il y a aussi surtout un problème dans ce pays. Vous savez, les gens prennent les armes souvent quand ils sentent qu'ils ne sont pas écoutés. Si on leur montre effectivement qu'on est disposé à les impliquer dans le processus, il y a de la place pour tout le monde dans ce pays. Je crois que tout homme raisonnable pourrait répondre de manière tout à fait positive.
Monsieur Mboui Kalalalafouele, écoutez la question de Binama Kabelou depuis Londres. Dites-nous, comment vous allez promouvoir les langues nationales? C'est une disposition de la Constitution.
Oui, d'abord, je lui dirais, je suis le seul à avoir introduit un amendement à l'Assemblée nationale pour faire de langue nationale des langues officielles. Je me battrai pour ça. J'introduirai l'enseignement de langue nationale dans les écoles, à commencer par les écoles primaires. Il faudrait qu'on les maîtrise. Je vais promouvoir l'utilisation des langues nationales dans la production artistique et dans tous les axes de la culture. Je vais aussi, je vous dis déjà, nous traduisons nos textes dans les langues nationales. J'aurai un programme des traductions de toutes les œuvres importantes de l'humanité dans les langues nationales. Il n'y a pas meilleur moyen de promouvoir une langue ou une culture que de traduire les meilleures œuvres de l'humanité dans ces langues-là. Et c'est ça qui s'est passé.
Professeur Mboui Kalalalafouele, cette disposition-là de la Constitution, vous comptez l'appliquer, mais vous êtes parmi les 6 personnes qui avaient dit non à Constitution.
J'ai voté non parce que c'est un très mauvais texte. Lisez mon analyse et j'aimerais bien vous la faire parvenir de ce procès. Un très mauvais texte. Je me battrai pour qu'un jour le Congo ait une constitution digne de son nom. Ce texte est mauvais à la fois sur le plan de la forme et sur le plan du fond. Et c'est un texte qui ne va pas aider le Congo à se stabiliser. Je n'ai pas voulu prendre la responsabilité devant l'histoire d'avoir aidé les Congolais à adopter un mauvais texte.
Et il ne nous reste pas beaucoup de temps. Vous êtes parmi les 19 candidats qui réclament le gel de la campagne électorale. Est-ce que vous êtes toujours dans la course?
Je suis toujours dans la course. Demander le gel, demander qu'il y ait concertation avant les élections ne veut pas dire qu'on s'est retiré de la course. Ceux qui disent ça, ils sont en train de faire de la manipulation. Nous n'avons jamais dit que nous nous étions retirés de la course à la présidentielle. Ce que nous demandons simplement, c'est qu'il faut développer une ambiance, une atmosphère amiable, avec un consensus sur l'essentiel des questions et des règles des jeux, afin d'organiser des élections utiles, dont les résultats ne vont pas être contestés le lendemain.
La campagne est déjà lancée, mais on ne voit pas beaucoup d'affiches du professeur Mboui Kalalalafouele.
Vous allez voir de plus en plus d'affiches. Nous avons adopté une double stratégie, parce que le plus important de la campagne, d'ailleurs, ce ne sont pas les affiches, et je crois que mes compatriotes ne vont pas voter sur base des affiches et des banderoles. Ils vont voter sur base de la vision et du message des gens. Nous avons adopté une stratégie de diffusion de notre message à travers la société et nous pensons que c'est la stratégie la plus efficace. Mais vous allez voir des banderoles, vous allez voir des posters dans les prochains jours.
Il y a Désiré Ngoy de Lubumbashi qui pose sa question au professeur Mboui Kalalalafouele. Allez-vous soutenir un candidat si vous perdez au premier tour?
Si je perds au premier tour, je soutiendrai le candidat dont la vision se rapproche de la nôtre. Mais si par malheur au deuxième tour, il y a 2 candidats dont les visions, si jamais ils ont des visions, sont antagoniques avec les nôtres, on s'abstiendra. L'abstention est un droit démocratique aussi. Je ne veux pas soutenir quelqu'un qui n'a pas de vision, parce que pour une société, confier son destin à un homme sans vision, c'est comme pour un homme confiait son trajet à un aveugle. On sait ce qui se passe. Au premier accueil, on est dans le trou. Et ce qui s'est passé dans ce pays, c'est le manque de vision qui a mené à un manque de bon leadership.
Nous avons épuisé les 10 minutes pour cet entretien. Professeur Mbuyi Kalala Alafuele, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie de cette occasion de parler à mes compatriotes et de répondre à leurs questions.